Notre Père, nous croyons en toi et nous croyons en ton Fils Jésus. Sois présent par le Saint-Esprit au milieu de nous pour que quand tu parles, nos oreilles et nos cœurs écoutent. Amen. Avez-vous peur de l'eau? Alors quelqu'un dira, pour des baptistes, ce serait un peu paradoxal. Pourtant, moi, je vous l'avoue, j'ai peur de l'eau. J'ai quand même été baptisé par immersion. Et j'en ai baptisé par immersion. Mais il faut dire qu'à court, le pasteur est en dehors de l'eau. Le baptiseur, voilà. L'eau. Nous allons lire le récit de la traversée d'un fleuve en crue. Alors en plus, c'est de l'eau qui bouge, ça. Traversée d'un fleuve en crue. Et en amont, c'est le cas de le dire, mais en amont dans l'histoire, il y a l'histoire d'un peuple qui a été libéré de l'esclavage, qui a déjà une fois traversé une étendue d'eau, la mer, qui a été 40 ans dans le désert, en manquant souvent de foi vis-à-vis de Dieu qui le conduisait. Ce peuple avait un leader choisi par Dieu, appelé par Dieu, Moïse. À présent, ce peuple a un nouveau leader, Josué. Il y a une nouvelle génération, parce que le peuple avait été 40 ans dans le désert, la génération précédente, sous un jugement de Dieu, avait disparu. Une nouvelle génération prête à croire à la promesse, prête spirituellement à entrer dans le pays promis. Et voilà cet obstacle de l'eau. Et nous lisons ce récit, c'est dans le livre de Josué, au chapitre 3. Nous lirons ce chapitre 3. Josué 3. Depuis le verset 1. Et Josué se leva de bon matin, et lui et tous les fils d'Israël se mirent en route depuis Shittim et arrivèrent au Jourdain. Et là, ils firent étape avant de passer. Et il arriva, au bout de 3 jours, les secrétaires passèrent à l'intérieur du camp et commandèrent au peuple en disant « Quand vous verrez le coffre de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, et les prêtres lévites qui le portent, à votre tour, vous vous mettrez en route depuis le lieu où vous êtes et vous marcherez derrière lui. Mais qu'il y ait entre vous et lui une distance à mesurer d'environ 1 kilomètre. » Ne vous en approchez pas afin de connaître le chemin où vous allez marcher, car vous n'êtes encore jamais passé par ce chemin. Et Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain le Seigneur fera parmi vous des miracles. Et Josué dit au prêtre, portez le coffre de l'Alliance et passez devant le peuple. Et ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Et le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui même, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël, de sorte qu'ils sachent que comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Et toi, tu commanderas aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance en disant, quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, c'est dans le Jourdain que vous vous arrêterez. Et Josué dit aux fils d'Israël, approchez par ici et écoutez les paroles du Seigneur, votre Dieu. Et Josué dit, à ceci vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous et qu'il ne manquera pas de déposséder devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périsites, les Girgachites, les Amorites, et les Jébusites. Voici, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre passe devant vous dans le Jourdain. Et maintenant, prenez parmi vous 12 hommes des tribus d'Israël, un homme par tribu. Et il arrivera, quand la plante des pieds des prêtres qui portent le coffre du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, reposera dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent depuis l'amont, et elles s'arrêteront pour former une digue. Et ainsi, quand, après avoir plié leur tente, le peuple se mit en route pour passer le Jourdain avec les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance devant le peuple, eh bien, dès que ceux qui portaient le coffre arrivèrent au Jourdain et que les pieds des prêtres qui portaient le coffre trempèrent dans l'eau tout au bord, et ce, alors que le Jourdain débordait de toutes ses rives pendant tout le temps de la moisson, alors les eaux qui descendaient depuis l'amont s'arrêtèrent. Elles se dressèrent en une digue à bonne distance à Adam la ville, qui est du côté de Sartane, et celle qui descendait vers la mer de la dépression aride, la mer morte, finirent de couler. Elles furent coupées, tandis que le peuple passait en face de Jéricho. Et les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur s'arrêtèrent en terrain sec, de pied ferme au milieu du Jourdain, tandis que tout Israël passait en terrain sec, et ce, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Premier point, les pieds dans le courant. Ce récit du passage du Jourdain est raconté par le narrateur inspiré avec un luxe de détails et moult répétitions. Et je n'ai pas tout lu. Il y a encore tout le chapitre 4 qui suit. C'est pour souligner l'importance du passage. Comme le passage de la mer Rouge, 40 ans avant, mer Rouge ou mer des Joncs. D'ailleurs, la conclusion du chapitre 4 que nous lirons tout à l'heure fait explicitement le lien entre les deux passages de l'eau. Passage de la mer pour la génération précédente, passage du fleuve pour la génération actuelle. J'ai parlé de passage. Le verbe passer, qu'on peut aussi traduire par traverser, apparaît 9 fois dans ce chapitre. Il ne s'agit pas simplement d'aller, de marcher, les mains dans les poches et le nez en l'air, mais de passer des obstacles. On parle de passer dans ce sens quand il y a quelque chose qui nous arrêterait, quand il y a quelque chose qui nous retiendrait d'aller plus loin. En cette saison, surtout dans notre Jura, eh bien, ce qui nous empêcherait de passer, c'est la glace ou le verglas, l'eau à l'état solide. Mais qu'elle soit à l'état solide ou à l'état liquide, l'eau empêche souvent de passer. C'est l'obstacle. C'est ce qui fait qu'on n'y va pas simplement comme ça sans se rendre compte même qu'on marche. Alors, dans « passer », il n'y a pas... Je fais un jeu de mots, je n'ai même pas vérifié l'étymologie, mais je fais un jeu de mots. Dans « passer », les trois premières lettres, il y a « pas ». Il y a des pas décisifs. Et ici, ce pas décisif est pour les prêtres, parmi tout le peuple. Ils doivent poser les pieds dans l'eau, même si c'est au bord, donc dans le courant. Et on nous dit, au verset 15, dans une petite parenthèse, que le fleuve était en crue et ce, alors que le Jourdain débordait de toutes ses rives pendant tout le temps de la moisson. Si jamais vous avez été dans ces pays-là, vous, normalement, vous traversez le Jourdain. Moi, je l'ai traversé en venant depuis la Jordanie, le fameux pont Allenby. Il faut vraiment, quand on est dans le bus, bien regarder puis être bien attentif au bon moment pour voir qu'il y a une rivière. Le Jourdain, c'est franchement pas impressionnant comme fleuve. Mais, paraît-il, j'ai pas passé au début du printemps, alors là, c'est une autre histoire. Après la fonte des neiges dans le massif de l'Hermont, près de sa source, là, c'est une autre histoire. Il déborde. Et il est impétueux. On nous dit la saison que c'était parce que c'était la moisson, mais il faut entendre la moisson de l'orge. Pourquoi ? Eh bien, ceux qui sont peut-être, ou qui ont été, qui ont eu de la famille agriculteurs parmi vous, savent que sous tous les climats, hein, l'orge est récoltée avant le blé. Et comme le blé, dans ces pays-là, je l'ai bien vu quand j'étais au Liban, est récolté à peu près tout en grangé fin mai, hein, la saison est plus avancée que dans notre Europe au nord des Alpes, eh bien, l'orge, c'est déjà autour de Pâques, enfin de notre fête de Pâques, voire un peu avant. Il est dit ailleurs au chapitre 4 qu'on était justement au premier mois du calendrier juif, c'est un peu à cheval sur mars et avril. Donc là, c'est vraiment la crue du fleuve. Effrayant, donc, ce fleuve en crue. Et en plus, ces prêtres portaient le coffre de l'Alliance, on traduit aussi l'Arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence même de Dieu. Que penser du risque de renverser ce coffre ? Mais, et dans d'autres récits, il y a eu des conséquences graves quand ce coffre a été renversé, qui font froid dans le dos, ces conséquences. Mais ici, Dieu a commandé de procéder ainsi, avancer les pieds dans l'eau. Donc, rien de fâcheux n'arrivera. Dieu leur dit ainsi, physiquement, par ce coffre, qu'il est avec eux. Je suis avec vous, avancez, n'ayez pas peur. Et voilà, ils doivent avancer les pieds dans le courant. Situation inconfortable, incertaine, qui ne peut pas durer. Mais pour que la suite se produise, pour que le peuple puisse passer à pied sec, que l'eau s'arrête et forme une digue, pour que ça se produise, il faut avancer jusque-là. Et puis, si ça ne se produisait pas. Hein? Mais pour que ça se produise, il faut avancer jusque-là, faire ce pas, ce seul pas, quitter la terre ferme. La terre ferme de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise. C'est le pas de la foi. Donc, ce pas de la foi, les pieds dans le courant. Mais il y a un autre point important, une autre dimension importante de ce récit, ce sera notre deuxième point, c'est qu'il est important de connaître le chemin. Connaître le chemin. S'il y a un verbe passé qui revient, il y a aussi le verbe savoir ou connaître qui revient dans ce chapitre. Par exemple, au verset 4, et je lis depuis le verset 3. « Quand vous verrez le coffre de l'Alliance du Seigneur, votre Dieu, et les prêtres lévites qui le portent, à votre tour, vous vous mettrez en route depuis le lieu où vous êtes, et vous marcherez derrière lui. Mais qu'il y ait entre vous et lui une distance à mesurer d'environ 1 kilomètre. Ne vous en approchez pas, afin de connaître le chemin où vous allez marcher, car vous n'êtes encore jamais passé par ce chemin. » Pourquoi cette distance ? qui est quand même impressionnante, 1 kilomètre. C'est autre chose que la distance de sécurité, même sur les autoroutes. Distance d'un kilomètre. Alors, bien sûr, première raison, le respect de Dieu et de sa différence. Nous ne sommes pas Dieu. Quand on dit faire le pas de la foi, il ne s'agit pas d'une foi en soi-même, très à la mode aujourd'hui, hein, crois en toi. Il ne s'agit pas d'une foi en soi-même ou d'une vague foi dans la vie, mais d'une foi en Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes invités à nous placer devant lui, en face de lui. Et simplement cette pensée, Dieu éternel créateur, cela commande le respect. Donc, première raison de cette distance, le respect de Dieu. Mais il y a une autre raison qui est ici donnée explicitement, c'est pour bien voir la direction, afin de connaître le chemin par où vous allez marcher, car vous n'êtes encore jamais passé par ce chemin. Il s'agit d'attendre les indications du guide, d'écouter le guide. Avoir la foi, ça ne veut pas dire se précipiter en avant. Mais quand Dieu donne le feu vert, y aller. Ce pas risqué, les pieds dans le courant, il s'agit tout de même de ne pas être téméraire ou simplement irréfléchi. Dieu nous donne à connaître le chemin. Et troisième point, le Dieu vivant est parmi vous. Alors, une autre fois où le verbe savoir apparaît, connaître ou savoir, c'est le même verbe en hébreu, mais ce n'est pas étonnant parce que ceux qui apprennent le français, ne serait-ce que depuis l'anglais, ils s'arrachent les cheveux avec notre différence entre connaître et savoir en français. Donc, oui. Dans beaucoup de langues, il n'y a qu'un seul verbe. Donc, une autre occurrence du verbe savoir, c'est au verset 10. À ceci, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous. Vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous. Qu'est-ce que connaître Dieu ? C'est d'abord connaître tout ce que Dieu a révélé de lui-même. Oui, Dieu s'est révélé, chose extraordinaire, et Dieu s'est révélé clairement. Oui, la connaissance biblique est une base indispensable, mais c'est le Dieu vivant qui se donne à connaître. Le Dieu vivant, ce n'est pas un objet de savoir historique uniquement. Ce n'est pas un objet de savoir tout court. Un Dieu vivant, toujours vivant aujourd'hui. Alors je reviens au fait que les prêtres portaient ce coffre. Le Dieu vivant investit un objet matériel. Or, il ne s'agit pas là de quelque chose de magique, car il n'y a pas d'automatisme. Dans l'Ancien Testament, quand il est question de ce fameux coffre, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu soit automatiquement, forcément, toujours en train d'investir ce coffre de sa présence. Il y a un autre récit, c'est plus tard dans l'histoire d'Israël, du temps du prêtre Élie, et c'est l'histoire de Samuel, où le peuple va part en guerre contre les Philistins, et ils se disent, on prend le coffre avec, et tout ira bien, et tout va mal. C'est dans 1 Samuel, verset 4. Car là, Dieu avait décidé de ne pas accompagner le peuple. Alors, coffre ou pas, ça ne faisait plus aucune différence. si Dieu investit ce coffre à un moment donné, et seulement dans ces moments-là, c'est qu'il l'a bien voulu pour le bien de son peuple. Et pour nous aujourd'hui, Dieu n'investit plus de sa présence un coffre qui a d'ailleurs disparu avec l'exil à Babylone. Mais la leçon reste. Le Dieu vivant est parmi vous. Dieu toujours vivant, s'il est parmi nous encore aujourd'hui, malgré tous les changements, j'ai dit, il n'y a plus ce coffre, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais malgré tous les changements, cette histoire que nous lisons n'est pas seulement un récit du passé. Alors, il y a là, devant nous, une terre promise à chacune des personnes qui sont unies à lui, qui ont mis leur foi en lui, une terre promise à l'Église, le corps rassemblé de toutes les personnes qui ont la foi en lui. Et cette terre promise nous est promise grâce à Jésus-Christ. Peut-être qu'on pourrait même dire que Jésus est notre terre promise, la relation avec lui, être unie à lui, et toutes les autres bénédictions, finalement, c'est secondaire par rapport à sa personne. Il y a toutes les autres bénédictions, notamment futures, le nouveau ciel et nouvelle terre, mais tout est lié à sa personne. Et pour atteindre cette terre promise, bien oui, l'atteindre, parce que nous ne sommes pas toujours intensément, en tout cas de façon consciente, en communion avec, même avec Jésus-Christ, pour atteindre, et nous ne sommes pas encore à la stature de Jésus-Christ qu'il veut pour nous, car nous en sommes encore éloignés par notre péché qu'il est en train de purifier. Donc pour l'atteindre, il y a ces passages difficiles qui nous font peur. Le temps est venu de la marche, de la mise en pratique. C'est pourquoi j'arrive au point 4, où je dis ça pour nous aujourd'hui. Nous passons aujourd'hui le fleuve. Point 4. Nous passons aujourd'hui le fleuve. Je ne lis pas la plus grande partie du chapitre 4, je ne la lis pas, mais il y a une série de consignes pour que le peuple prenne au milieu du fleuve 12 grosses pierres qui seront des pierres commémoratives, une pierre par tribu d'Israël. Et j'arrive vers la fin du chapitre 4, et là je vais lire les derniers versets du chapitre 4, versets 19 à 24. Or, le peuple était remonté du Jourdain le 10 du premier mois, et ils campèrent au Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Quant à ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa au Gilgal. Puis il dit aux fils d'Israël, « Lorsque vos fils demanderont à leur père demain en disant, qu'est-ce que c'est que ces pierres ? Vous porterez à la connaissance de vos fils ce qui suit. C'est comme sur un sol sec qu'Israël a passé ce Jourdain, parce que le Seigneur, votre Dieu, a asséché les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous soyez passés, comme le Seigneur, votre Dieu, l'avait fait pour la mer des joncs qu'il avait asséché devant nous, tiens, devant nous, jusqu'à ce que nous soyons passés, afin que tous les peuples de la terre connaissent la main du Seigneur, combien elle est forte, afin que vous craigniez le Seigneur, votre Dieu, en tout temps. » J'ai traduit, comme c'était dans le texte hébreu, où c'est parfois, c'est un peu surprenant, nos traducteurs français ont été un peu déroutés, ils n'ont pas toujours traduit exactement, littéralement, sur ce plan-là. Il y a en milieu de phrase un passage du « vous » au « nous » tout d'un coup, qu'il avait asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés, et à partir de là, c'est une longue phrase, mais la phrase est en « nous ». Alors je reviendrai justement à ce passage du « vous » au « nous ». Il y a une raison. Donc il y a des consignes, vous porterez à la connaissance de vos fils ce qui suit. De nouveau, ce verbe connaître. Mais là, c'est pour les générations futures. Ça rappelle un peu le rituel de la Pâque. D'ailleurs, il y aura peu après, parce qu'on était 4 jours avant la Pâque, le 10 du mois, la Pâque c'est le 14, il y aura peu après, dans Josué, au chapitre suivant, la première Pâque célébrée en terre promise. Tout cela n'est pas un hasard. Et comme à la Pâque, il y aura aussi une transmission de la mémoire de ce passage du fleuve. Mais qui dit transmission de mémoire ne dit pas simplement transmission d'une vieille histoire. Et puis bon, c'est intéressant ou pas, les enfants ensuite, ils en font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas simplement transmission d'une vieille histoire, c'est transmission de quelque chose qui est toujours actuel. Et je pense que ce « vous » et ce « nous », où ça change tout d'un coup en milieu de phrase, on passe du « vous » au « nous », ça indique qu'il faut jouer un jeu de rôle. Parce que le Seigneur, votre Dieu, a asséché les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous soyez passés. Vous, c'est les enfants dans le jeu de rôle. Mais en fait, c'est la génération qui a passé le Jourdain. C'est la génération de Josué. Comme Dieu l'avait fait pour la mère des gens, qu'il avait asséché devant nous. C'est étonnant, parce que ceux qui auraient pu dire il avait asséché la mère des gens devant nous, au moment du récit de Josué, ils sont déjà morts dans le désert. Mais en fait, à l'avenir, les parents feront leur petit théâtre et ils joueront le rôle de la génération du temps de Moïse qui a traversé la mer d'Ijon. On fera un jeu de rôle. Et aujourd'hui, je sais, c'est à la mode les jeux de rôle, mais c'est biblique. C'est une mode, en fait, très ancienne. C'est une mode rétro, disons. Les fils, par ce jeu de rôle, ils n'entendent pas simplement une histoire, ils y participent. Ils sont sur le qui-vive quand on leur raconte l'histoire sous cette forme. Moi, je suis celui qui suis sorti d'Égypte avec Moïse. Toi, tu es celui qui est entré en terre promise avec Josué. Il ne s'agit pas simplement de savoir que, mais de revivre l'événement. Et c'est une histoire à revivre. Alors pour nous, elle est à revivre par notre relation avec Jésus-Christ, en suivant Jésus-Christ, notre maître et notre guide. C'est pourquoi j'avais choisi ce chant « Je crois en Jésus ». Je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, mais heureusement le chant ne se termine pas là, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Et c'est là que j'en arrive à la conclusion que j'ai intitulée comme un cinquième point, le pas décisif. Quel est pour nous le pas décisif ? Pour vous, pour toi, pour moi. Ça peut être de répondre à Dieu qui vient nous délivrer de notre esclavage, à ce maître implacable, même s'il apparaît parfois doucereux, le péché. Si quelqu'un ici n'a pas encore répondu résolument oui par la foi à Dieu qui descend, qui est descendu en Jésus-Christ, qui descend vers nous les êtres humains pour venir à notre recherche. Eh bien, le pas décisif, c'est cela. Répondre à Dieu par la foi dans un engagement qui n'est pas un engagement « je suis capable », au contraire, je suis capable de rien, mais prends ma vie en main et comme ça, je peux m'engager. Ça peut être cela, le pas décisif. Et puis, vu qu'il est question d'eau qui fait peur, d'eau en crue, d'eau dans laquelle on risque de se noyer, eh bien, pensons quand même à ce symbole si riche du baptême, car le symbole n'a pas été choisi au hasard. Et c'est un symbole qui est mémorable. Nous sommes baptisés, pour ce qui est du baptême authentique, une seule fois dans la vie. Mais le souvenir reste, et c'est un souvenir vivant. Et je me rappelle un prédicateur catholique qui a dit c'est quand même un peu un comble que ceux qui sont passés par les eaux du baptême aient peur de se mouiller. Il y a bien des situations aujourd'hui et il y en aura encore demain où il ne s'agit pas simplement de suivre le train-train quotidien, de continuer dans la routine, mais il y a une décision. Il faut se mouiller. Une décision qui est risquée, mais on est appelé à se mouiller. Ou on peut très bien décider de rester en arrière, mais ce serait bien dommage, et on va le regretter par la suite, de ne pas avoir pris le risque de ne pas s'être mouillé. Oui, il y a des décisions difficiles. Là aussi, ce sont des pas décisifs où Dieu promet de nous accompagner. Quand nous prenons cette décision difficile, ça peut sembler suicidaire, mais ce ne sera pas suicidaire si Dieu nous y invite. Il s'agit bien sûr de réfléchir, déjà réfléchir pour savoir si Dieu nous appelle à nous mouiller justement dans cette circonstance. Dans l'histoire, il y a eu certainement des circonstances où la décision de se mouiller ne pouvait pas être prise avec un grand délai de réflexion, et parfois elle doit être rapide. J'ai encore revu ce matin le livre Souvenir que Paul a fait en mémoire de son père, Guy. Je suis sûr qu'entre 40 et 45, toutes les décisions importantes qu'il a prises, il n'a pas pu forcément y réfléchir à tête reposée pendant très longtemps. Mais parfois, il faut se mouiller dans l'instant. Il y a des situations de la vie comme cela. Mais que ce soit des décisions à prendre dans l'instant ou des décisions qui laissent un délai de réflexion, il s'agit de voir si nous sommes appelés à avancer, à nous mouiller, et alors là, se mouiller. Et puis, la décision, le pas décisif à prendre, ça peut être tout simplement d'aider quelqu'un, de sortir de son petit confort personnel, d'aider quelqu'un, ou alors de se faire aider, l'entraide dans l'Église. Ce n'est pas simplement « je suis toujours prêt à aider les autres ». C'est parfois accepter de se faire aider. Et il y en a parmi nous, c'est la chose la plus difficile de la vie, hein, accepter de se faire aider. Et si on parle de pas, de passage, rappelons-nous que la mort, à la fin de notre existence, dont nous ne savons pas le jour, la mort est un passage. Nous nous préparerons à ce passage dans la mesure où aujourd'hui déjà, nous franchissons tous les passages difficiles en faisant confiance à Dieu et en lui obéissant, en prenant jour après jour les décisions qui sont guidées par l'amour que nous rendons à Dieu qui nous a mis le premier, des décisions guidées par la foi. c'est la meilleure préparation à ce passage qui, même si nous sommes au Seigneur, nous effraie, la préparation à ce passage de la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes bien vivants. Et c'est bien vivant que nous voulons suivre le Dieu vivant. Qu'il nous réjouisse et qu'il nous bénisse tous ces prochains jours. Amen.